Tu as pêché baobab acajou.
Dur de la feuille.
Baobab acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mes lèzes tremblent, tremblent être noyés.
Bienvenue dans un épisode spécial de la série Feuilles de chou, la série qui interroge et nourrit l'information du vivant. Chaque épisode relate une actualité dans ses moindres recoins pour comprendre ce qu'elle signifie pour le vivant. Dans cet épisode, exceptionnellement, je vous propose ensuite de prêter l'oreille à des témoignages avant de connaître les rendez-vous et éléments précieux à ne pas manquer. Le sujet du jour ? Octobre 2023. Publication du rapport du Jardin Royal Botanique de Kew sur l'état de la flore et des champignons à l'échelle du monde. D'après ce rapport, comment se portent plantes et champignons à la surface de notre planète ? Comment se portent plantes et champignons à la surface de notre planète ? Quelle conclusion ce rapport tire sur l'état actuel de la Terre ? Sur quels travaux scientifiques se basent ces analyses ? Comment peut-on lier cet état des lieux à notre quotidien ? Et des solutions permettant de mieux vivre avec le vivant qui nous entoure et nous compose. Si je vous disais que de nouvelles espèces sont nommées tous les ans, que depuis 2020, les botanistes aguerris de cette planète ont nommé plus de 18 000 nouvelles espèces de plantes. Attention, n'allez pas croire que ces 18 000 plantes n'étaient pas déjà présentes sur Terre. Pour la plupart d'entre elles, il a fallu attendre de pouvoir mener des analyses génétiques, des analyses ADN, pour enfin connaître leur identité et les distinguer de leurs cousines si physiquement proches. Quel intérêt, me direz-vous, à savoir que ce pétunia est différent de cet autre juste à côté ? Eh bien, si nous ne connaissons pas ce qui existe actuellement, comment serons-nous à même de comprendre les tendances de ce monde, surtout dans le contexte actuel de crise de la biodiversité ? On pourrait se dire que ce que nous n'avons jamais connu ne peut nous manquer, mais dans le gigasystème du vivant qui est le nôtre, voir disparaître des espèces indispensables à la survie d'autres est une réaction en chaîne que nous avons encore du mal à jauger et qui menace notre propre existence. La grande difficulté réside dans la connaissance exacte de ce point de bascule à partir duquel un processus en chaîne d'extinction ne pourra être ralenti, diminuer, voire stopper pour les plus optimistes. Dans ce rapport, rédigé entièrement en anglais, on tente de faire des constats et d'appréhender le seuil qu'il ne faut pas dépasser au risque de compromettre le fonctionnement des écosystèmes et donc notre propre survie. Les conclusions, qui sont plutôt des hypothèses, sont issues du travail de plus de 200 scientifiques répartis dans une trentaine de pays. Les chiffres sont là. D'une part, 45% des espèces végétales connues courent le risque de s'éteindre, et d'une autre, environ 2 millions de champignons restent à découvrir. Ces êtres complexes, oubliés et pourtant omniprésents pourraient bien discrètement nous susurrer à l'oreille dans un prochain épisode. Et pour cause, tête en l'air que nous sommes, nous en oublions bien vite ce qui galope et s'étend sous nos pieds. La vie dans le sol est bien plus diversifiée que ce qu'il n'y paraît. Une récente étude publiée en août 2023 dans la revue scientifique de l'Académie nationale des sciences met à jour ce vivant de la matière brune. Cette étude rappelle que les organismes du sol assurent des fonctions uniques sur lesquelles nous nous basons pour la nourriture, les fibres de vêtements et la santé humaine et planétaire. Malgré l'importance de la vie des sols, nous manquons d'estimations quantitatives de la biodiversité des sols, ce qui rend difficile le plaidoyer en faveur de l'importance de la protection, de la préservation et de la restauration de la vie des sols. Cette étude démontre ainsi que le sol abrite probablement 59% de la vie, des microbes aux mammifères, ce qui en fait l'habitat le plus riche sur Terre. Les représentants vont des organismes les plus simples, microbiens, aux plus complexes, les mammifères. Les anchitréides, des vers de terre blancs pour faire simple, ont le plus grand pourcentage d'espèces dans le sol, plus de 98%, suivi des champignons, 90%, des plantes, 85%, et des termites, 84%. Ces résultats démontrent que le sol est l'habitat singulier le plus diversifié en termes de biodiversité. Le sol, sa conservation et la restauration des organismes du sol se placent dès lors en tant qu'objectif central de l'Anthropocène. Et une question se pose, comment protéger ou aider les sols à retrouver leur fonctionnalité ? En France, l'objectif de zéro artificialisation nette d'ici 2050 interdira toute artificialisation des sols. Mais qu'en est-il alors de l'agriculture intensive ? En France, plus de 50% du territoire est consacré à l'agriculture. Le modèle agricole dominant, issu des choix collectifs faits dans la seconde partie du XXe siècle, est basé sur le recours massif aux intrants, engrais chimiques, produits phytopharmaceutiques, l'intensification, la spécialisation des territoires. Un certain nombre de ces pratiques engendrent des effets négatifs sur le vivant. L'agroécologie est un concept qui remet la biodiversité et les processus écologiques au cœur de l'agriculture. Elle vise à réduire les impacts environnementaux sur l'eau, les sols, le vivant, tout en répondant aux besoins économiques et alimentaires. La prise en compte de la nature et des services qu'elle rend est le fondement de cette démarche. Plusieurs programmes, pilotés par l'Office français de la biodiversité, existent pour aider à l'installation de ces pratiques agroécologiques. Le programme Agrifaune, qui vise à mettre en évidence et démocratiser des solutions, permettant de combiner performance agricole et préservation de la biodiversité. En gros, faire par exemple une opération rapace, pour lutter contre la prolifération de mulots. La marque végétale locale, portée en partenariat avec les conservatoires botaniques nationaux et qui propose des graines et plants sauvages dont l'origine locale est garantie. Ou encore le plan Ecophyto 2, copiloté par les ministères en charge de l'agriculture et de l'alimentation et qui vise à réduire la dépendance du monde agricole aux produits phytopharmaceutiques. Ce plan soutient financièrement l'innovation, la recherche d'alternatives à ces fameux produits, ou encore soutient l'exploration des conditions du changement de pratique afin d'obtenir une réduction de ces fameux produits ainsi que de leur impact. De nombreux cultivateurs et aménageurs ont engagé ces changements, avec ou sans aide, parfois même à contre-courant des idéologies environnantes. Ces pionniers ouvrent la voie et nous confient des morceaux de leur histoire. Que diriez-vous de leur prêter l'oreille un court instant ? Direction, les prairies d'élevage.
Naturelle, c'est une surface en herbe caractérisée par une grande diversité floristique et qui en fait n'a pas connu de perturbation depuis plusieurs années.
Pour un botaniste que je suis, une prairie naturelle, c'est un curieux concentré de toute la végétation qui peut pousser aux bordures des bois.
C'est des milieux qui vont être valorisés par l'élevage, soit par la fauche, soit par le pâturage.
Son caractère maigre et peu intense joue son rôle de préservation d'une biodiversité très grande.
Ma propriété se comporte d'environ une centaine d'hectares, avec de la prairie naturelle permanente, de fauche, essentiellement, qui me permet d'être presque à 80-90% autonome pour l'hiver en foin pour les brebis. Il y a moins de boulot, hormis la fauche. Après, tout ce qui est traitement d'engrais, moi j'utilise que du fumier issu de l'exploitation, quoi, le fumier des brebis.
À l'autonomie fourragère, ça me permet voilà, de ne pas avoir des intrants sur l'exploitation et d'avoir une rentabilité de mon exploitation. On laboure pas, on rajoute pas de semences. C'est vraiment un coût minime pour une bonne production derrière.
Il y a plusieurs intérêts. D'une part, donc, en termes d'exploitation, déjà, c'est à notre avis quelque chose de plus souple que la prairie temporaire. Parce que bon, il y a une flore qui est relativement diversifiée, donc toutes les plantes ne sont pas au même stade végétatif. On fait essentiellement du foin, donc comme on a des contraintes météo, si on ne peut pas exploiter tout de suite, on attend 8 jours, 10 jours, 15 jours, et donc c'est beaucoup plus facile à ce niveau-là, une prairie naturelle par rapport à une prairie temporaire.
Là-bas, c'est une bonne prairie naturelle, c'est un sol de qualité. Et un sol de qualité est un sol qui résiste mieux au changement climatique, hein, puisqu'il retient mieux l'eau. Je pense que globalement, ils sont plus résilients dans ce contexte.
Une prairie de fauche qui est bien conservée va avoir une plus grande résistance aux changements, aux parasites, aux maladies que des prairies qui ont été semées avec des semences plus traditionnelles, on veut dire, plus commerciales.
Les prairies naturelles donnent une qualité floristique différente, c'est plus appétant. Ça donne aussi du foin qui est plus fin, donc pour le niveau fauchage, il sèche plus vite. Donc il perd moins d'éléments minéraux au séchage. Voilà, les bovins, en mangeant ce fourrage, profitent plus, prennent plus de poids, de gains moyens quotidiens dans la ration.
C'est vrai que d'un bon foin, bien, ça maintient en forme le troupeau, parce qu'on travaille surtout sur la résistance du système immunitaire des brebis. Et les prairies fleuries sont un bon atout, parce que c'est quand même du foin beaucoup plus équilibré que du foin de prairie temporaire, parce que c'est plus varié.
Nous, on y est assez attachés parce que du point de vue biodiversité, je pense que c'est un peu empirique, mais je pense qu'il y a un grand rôle pour la flore en fait des fromages. Nous, on n'a jamais aucun souci que ce soit sur les bactéries lactiques ou sur de la flore d'affinage. En fait, on a toujours une flore très riche et des très beaux fromages. Et c'est en grande partie dû aux prairies naturelles, je pense.
Du sol, par contre, le fait de travailler en prairie fleurie, c'est vrai que je pense que le sol est quand même très vivant. C'est pour ça qu'on essaie de pas trop l'abîmer non plus.
Pour toutes les espèces vivantes, les abeilles, tout ça, ça leur donne de quoi manger, de quoi vivre.
Du point de vue de la biodiversité, en fait, ce sont des milieux extrêmement riches, riches de par leur diversité floristique. Et avec cette diversité floristique, en fait, c'est toute une diversité faunistique en fait qui va s'en suivre. C'est-à-dire que parce qu'on va avoir des hauteurs de végétation différentes, du coup, on va avoir des populations d'orthoptères, donc criquets, sauterelles, grillons, qui vont être eux aussi très variés. Donc, on va attirer les pollinisateurs de par la disponibilité en ressources nutritives, pollen et nectar. Et avec tous ces insectes, c'est aussi tout le cortège d'espèces associées.
Et j'ajouterai aussi un détail qui est important pour nous, peut-être moins pour d'autres, c'est le caractère esthétique aussi, puisqu'en fonction des saisons, on a des floraisons différentes, de types différents, avec des couleurs qui sont très très marquées et qui, je pense, sont aussi appréciées par toutes les personnes qui profitent aussi du paysage.
Ce sont des écosystèmes en fait à part entière. Et du coup, comme tous les écosystèmes, ce type de milieu-là va pouvoir rendre un certain nombre de services dits écosystémiques sur la préservation des sols, tout ce qui va être limitation de l'érosion, puisqu'en fait, les prairies naturelles ne tolèrent qu'un travail superficiel du sol, et puis aussi une limitation des ruissellements. Ça va aussi limiter la propagation des pollutions diffuses, et puis ça va aussi permettre en fait une meilleure épuration des eaux par l'infiltration dans le sol.
L'intérêt des prairies naturelles qui ne sont jamais retournées, c'est également de permettre de garder des sols couverts toute l'année, de permettre du stockage carbone, et ça vient un petit peu améliorer, on va dire, les bilans carbone des exploitations.
Souvent,
les prairies qu'ils ont fauchées, elles sont dans un bon état. Et nous, on a juste à encourager les pratiques déjà existantes et à les maintenir telles qu'elles étaient autrefois pour pas trop évoluer vers une intensification.
Un des dispositifs, c'est la contractualisation de mesures agro-environnementales et climatiques qui va permettre de maintenir la pratique de la fauche. Une autre façon peut être aussi effectivement de leur proposer de s'inscrire au concours Prairie Fleurie et qui permet justement aussi de valoriser les éleveurs engagés dans ces démarches-là.
Sur cette exploitation que j'ai repris après des gens qui travaillaient en traditionnel, donc avec pas mal d'engrais, labour, etc. etc. Et moi, j'ai fait carrément l'inverse. Je pense qu'il faut être patient. Il ne faut pas se décourager à l'avance en se disant bah, au bout de 3 ans, oulala, c'est pas beau. C'est pas encore, on n'a pas encore le résultat qu'on veut. Et puis faire confiance à la terre, qui de toutes les façons après reprend le dessus quand même. Il y a beaucoup, beaucoup d'atouts et puis c'est quand même plus agréable de se dire on ne pollue pas, on contribue un peu à ce que nos enfants, arrière-petits-enfants, tout ça, aient de l'espoir aussi de pouvoir y arriver, quoi.
Vous l'avez compris, si le sol ne va pas bien, il ne peut pas infiltrer ces torrents d'eau qui déferlent à la surface actuellement, jusque dans les nappes phréatiques. Et il ne peut pas non plus stocker l'or bleu comme il le pourrait initialement. Pourtant, tant de choses sont possibles pour les protéger, vous les connaissez déjà un petit peu désormais. Quand les impulsions du vivant guident l'humain, les chemins que nous traçons sont source d'inspiration pour nombre d'artistes. Avec sa dernière création, Voyage d'une goutte de pluie, Daniel Marr propose de suivre le cheminement d'une bille d'acier qui voyage au fil de l'eau et traverse les 24 pages d'un livre animé. Un ouvrage où le papier finement découpé et mis en relief permet aux enfants et aux plus grands de comprendre le cycle de l'eau. Pour rester dans l'univers du livre, qui accompagne volontiers une matinée à procrastiner sous la couette, osez-vous plonger dans cet ouvrage de Marc Giraud. Safari dans la bouse. Des crottes roses bonbons, de la baleine, à l'animal qui n'en fait jamais, des testicules du bousier, au bébé lèche-cul, du latrine lover, aux bouses à la vanille. Vous saurez tout sur les mœurs insoupçonnées des vaches, des chiens, des abeilles, des humains ou des éléphants et sur l'importance planétaire des déjections pour que ce qui n'est que déchets organiques devienne terreau fertile. Cette série reviendra au gré de la pousse du chou. La semaine prochaine, retournons en sortie de champ pour nous nourrir du vivant.
Peint des landes palissandres, mais les œufs tremblent, tremblent être noyés.